Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Lynn Baudrier et Quentin Mallet, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, donc vous êtes tous les deux étudiants à l'Institut d'études politiques Sciences Po Rennes au sein du Master 2 Journalisme, Reportage et Enquête. Aujourd'hui, on présente votre projet d'études sous forme de podcast Démocrash, c'est son titre. C'est à écouter la semaine prochaine sur les ondes de Canal B, ça tombe bien, du lundi 13 au vendredi 17 janvier, à chaque fois à midi. Et ce travail sera aussi à retrouver en podcast sur le site internet de Canal B. Avant de présenter ce travail, j'ai envie de vous demander comment vous avez atterri dans ce master journalisme à Sciences Po Rennes. Est-ce que vous avez peut-être des rêves professionnels déjà qui se dessinent? On commence avec Lynn.
Moi j'ai commencé en fait à Sciences Po dès la première année et je suis rentrée à Sciences Po en ayant déjà en tête un peu le journalisme. Et donc le master JRE est venu un peu naturellement ensuite en M1. Et la particularité de ce master, c'est quand même qu'il est assez axé sur l'investigation, l'enquête, le journalisme de temps long. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ça qui m'intéressait plus qu'autre chose. Après, sur les références pour la suite, c'est encore assez flou. Je pense que les stages de fin d'année vont pas mal aider à se décider. Mais en tout cas, c'est vrai que dans le master, on a pu découvrir à la fois, pratiquer davantage le journalisme écrit, découvrir la radio justement, découvrir aussi la télévision. Donc ça permet un peu de se situer et c'est vrai que moi qui étais beaucoup plus axée écrit à la base, maintenant j'ouvre un peu plus mes portes à la radio notamment.
Quentin, pour vous ?
Alors moi j'ai un parcours un tout petit peu différent et qui est plus le cas des autres collègues qui sont en master avec nous, c'est que j'ai intégré le master
sans avoir fait les premières années à Sciences Po
en master 1. J'ai fait une licence d'histoire avant et c'est pareil pour nos camarades, il y en a qui ont fait de sciences politiques, du droit, etc. Je suis rentré à Sciences Po en ayant d'abord tenté les concours des écoles de journalisme reconnues, qui n'est pas le cas de celle-là, et j'ai pas été pris dans les autres, et après dans les écoles qui n'étaient pas reconnues. Moi, je trouvais que c'était celle qui, justement, comme Adeline, était le plus axée sur le journalisme de temps long, l'investigation, etc. Et j'ai pas du tout été déçu de ce que j'ai fait, de ce que j'ai appris.
Déjà des projets en tête pour l'année prochaine ?
Moi, c'est pareil, j'étais un petit peu, avant de venir, l'esprit un peu puriste. Moi, je fais de la presse écrite, j'écris, j'adore écrire, c'est super. Et en fait, quand on arrive, on découvre en effet la télé, la radio, et on apprend à tout faire. Et donc pour moi, c'est un peu la radio qui m'intéresse, la presse écrite toujours. Et le journalisme d'investigation, c'est ce à quoi on nous forme le plus et c'est ce à quoi je suis le plus sensible.
La République, c'est moi !
Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, j'ai envie de péter un abribus tous les jours.
Je pense que nous sommes en train de traverser la crise démocratique la plus grave que la France ait connue.
Alors, dans le cadre de votre deuxième année de master en journalisme à Sciences Po Rennes, votre projet d'étude, c'était de réaliser un podcast. Et pour ça, vous avez été accompagné, je la cite, par Morgane Soularue, qui se trouve être journaliste ici à Canal B. Le thème qui vous a été imposé, c'est celui de la démocratie, un système à bout de souffle sous forme de questions. Ça vous a vite inspiré ou il y a eu une phase de recherche pour réussir à angler vos sujets ?
Je crois pas qu'on ait eu beaucoup de mal à se mettre dedans. On a pris un petit peu de temps pour angler chacun de nos sujets et surtout faire en sorte que, mis les uns dans les autres comme un puzzle, à la fin ça donne quelque chose de cohérent. Mais je crois pas que ce soit un sujet où on s'est dit « Oula, on n'y connaît rien ».
Il y a de la matière, faut dire quand même, en ce moment, pour parler de démocratie.
Oui, il y a de quoi faire. Et vraiment, ça s'est ressenti dès qu'on nous a parlé du sujet. On a vraiment eu cette discussion globale dans la classe où chacun faisait référence à des choses à quoi la démocratie en crise lui faisait penser. Et donc, on a tout de suite vu qu'il y avait des pistes à creuser.
Vous, les étudiants, vous êtes ensuite répartis par groupe de 2-3 élèves pour explorer donc le sujet sous un angle différent. Ça donne 5 épisodes de 28 minutes chacun. À écouter, on le redit, du lundi 13 au vendredi 17 janvier à chaque fois à midi. Le premier sur lequel vous avez travaillé avec deux collègues, Quentin, il s'intéresse au droit de manifester au lendemain, mais en tout cas pas très longtemps après cette mobilisation importante qu'on a connue en opposition à la réforme des retraites.
Ouais, exactement, donc avec Zara Windy et Dorian Vidal. On s'est intéressé rapidement, en fait. Ça faisait un petit moment que la question me taraudait sans que j'ai pu travailler dessus, de savoir est-ce que les manifestations sont encore utiles. Et évidemment, l'exemple flagrant, comme vous l'avez dit, c'est les manifestations contre la réforme des retraites en 2023. Elles étaient en nombre énorme et au final...
La loi a été adoptée.
Le projet est passé sans souci. Et donc nous, voilà, c'est ce qu'on a essayé d'interroger, de savoir est-ce que ça servait à quelque chose. Donc, pour résumer rapidement l'épisode, on a essayé d'abord de partir du droit de manifester au départ et de savoir comment est traitée la manifestation, quelle est sa place dans le rapport de force, parce que c'est un éternel rapport de force entre les gouvernants et le peuple. Et on voit qu'elle a évolué depuis, on ne fait pas 500 ans dans l'histoire, hein, on s'intéresse depuis le Front Populaire.
Au début du XXe siècle.
90 ans exactement. Et donc on remonte un petit peu la frise chronologique comme ça pour terminer avec justement cette réforme des retraites et s'intéresser au point de vue des manifestants, comment est-ce qu'ils vivent la période actuelle, parce que ça fait mal de se dire qu'on va en manifestation, qu'on fait grève, que ça coûte des sous, qu'on prend des risques. C'est sacrificiel d'aller en manifestation. On peut être éborgné. On l'a vu avec l'épisode 3 de notre podcast sur la répression et le maintien de l'ordre. Et donc, recueillir le point de vue des manifestants, comment ils ont ressenti depuis le début de leur vie à chacun ce droit de manifester et comment est-ce qu'eux, ils se sentent écoutés par... parce qu'on est en démocratie, donc dans une démocratie représentative, on ne devrait pas avoir trop de soucis à être d'accord avec ceux qui gouvernent, parce que c'est nous qui sommes...
Qui les élisons.
Qui les élisons, exactement.
Vous citez les manifestants, il y a beaucoup de voix qui se croisent dans l'épisode 1 de ce podcast Démocrash. Vous êtes allé chercher des chercheurs, des politiques et des manifestants. On cite un peu qui on croise.
Alors pour les chercheurs, on a Danielle Tartakovsky, qui est une historienne des mouvements sociaux, qui est un petit peu la référence... c'est ses pairs qui le disent, hein, c'est pas nous, sur le sujet. Également Noéline Castagnier, qui est également une historienne sur le XXe siècle, pardon, particulièrement. On a Dominique Andolfato, qui est spécialiste des syndicats, j'en ai pas parlé, mais évidemment qu'ils ont une place importante dans notre podcast. Pour comprendre le poids des manifestations, il faut comprendre l'évolution du poids des syndicats.
Avec un mouvement, on va dire, de désyndicalisation d'une grande partie des salariés depuis, aujourd'hui, des travailleurs.
Depuis 30 ans, c'est un peu le cas. Et on a également Emmanuel Rongoat, qui est venu à Rennes pour présenter un documentaire sur les Gilets jaunes. Comme on évoque évidemment les Gilets jaunes dans notre sujet, on est allé la choper au cinéma Arvor quand elle s'est déplacée. Et on a également des élus, donc les députés Marie Messmer et Miguel Boulou, qui sont députés de l'Ille-et-Vilaine. On a également un élu qui n'est pas, enfin, un élu qui n'en est pas un.
Un non-élu.
Un non-élu qui est Victor Albrecht. On a tenu en fait à interroger la majorité, parce que c'est facile de faire un podcast sur la manifestation en interrogeant des gens qui se sentent lésés par le gouvernement, mais il faut aller, je pense, recueillir le témoignage, pas de la majorité du coup, mais en tout cas de ceux qui sont au pouvoir.
Donc en l'occurrence, il est président du groupe Renaissance dans Lyon, Victor Albrecht.
Exactement. Et on a également donc des manifestants également, je ne vais pas citer, Pierre Chappat, qui est syndicaliste à la CGT, à l'UD35.
Donc en Ille-et-Vilaine. Vous l'avez dit, vous parlez de l'histoire de la mobilisation sociale, du mouvement de désyndicalisation pour arriver à ce qui se passe aujourd'hui. Quels éléments de réponse vous avez finalement récoltés à cette grande question qui est de savoir si manifester, ça sert encore à quelque chose? Il y a un regard un petit peu décalé, il ne faut pas juste raisonner en termes de est-ce que ce contre quoi on se bat remporte une victoire ou pas. Il y a d'autres choses qui jouent, le fait d'être ensemble, de sortir de chez soi.
C'est ça, c'est que c'est pas si simple de dire ok, est-ce que ça sert à quelque chose. Ça se résume pas au fait ok, est-ce que la loi a été retirée ou est-ce que la loi a été abrogée ou non. Déjà rapidement, ce qu'on remarque, c'est que depuis 10-15 ans, et en particulier depuis 2017, l'élection d'Emmanuel Macron, on remarque qu'il y a une absence de la prise en compte de la manifestation, et on considère que c'est pas du tout la rue qui gouverne. Donc voilà, on laisse passer en fait jusqu'à la suivante. Et en effet, il y a des manifestations qui servent pas forcément à faire abroger des lois, mais qui servent à mettre à l'agenda des sujets. C'est le cas des manifestations féministes, des manifestations pour les marches pour le climat. Et ça sert en effet aussi, d'un point de vue individuel, à se retrouver, à descendre dans la rue. Ok, je ne suis pas tout seul, ça donne de l'espoir. C'est les manifestants qui le disent, hein, je reprends leurs termes. Ça donne de l'espoir, et c'est une manière de faire corps, quoi. Quand on est tout seul sur son canapé devant sa télé à s'énerver, ça peut être un peu frustrant et ça peut être un peu vide de sens. Mais quand on descend dans la rue, on se rend compte que c'est pas nous le problème, en fait, je pense. C'est que, voilà, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans cette situation. Et voilà, je pense que ça fait du bien à tous. Et ça montre, hein, quand on est dans la rue, on montre à tout le monde, dans l'espace public. Donc on montre que...
La démocratie vit encore.
C'est ça.
Avant d'arriver à l'épisode sur lequel vous avez travaillé, Lynn, il faut quand même lister les sujets qui ont été explorés par vos collègues.
Oui, tout à fait. On a d'abord un sujet sur la désobéissance civile qui s'appelle « Désobéir au droit et à l'œil », qui a été réalisé par donc, Robin Peter, Luna Baudouin-Goujon et Caro Duro. On a ensuite un autre sur la répression policière, les forces de l'ordre, qui s'appelle « Que la force de l'ordre soit avec toi », réalisé par Zoé Dirison, Gilles Martel et Nicolas Thomas.
Dans lequel on entend, entre autres, un ancien sous-préfet, Laurent Bigot.
Oui, tout à fait.
Et le quatrième, avant celui de Lynn, c'est le gouvernement de Maxime Cormier et Juliette Rigaud, qui s'intéressent en fait au poids du complotisme sur le chaos politique, sur cette crise démocratique qu'on traverse.
Le cinquième et dernier épisode, il questionne, lui, la place des femmes en démocratie sans état d'âme. Il y a un jeu de mots. C'est le titre que vous avez donné à votre travail documentaire, Lynn Baudrier. Vous n'étiez pas seule.
Oui, tout à fait. J'ai travaillé sur cet épisode avec Camille Curnier. Donc ça a été un vrai travail. Je pense qu'on a toutes les deux sorti parce qu'on était déjà intéressés et touchés par cette thématique. Je pense déjà on est parti de ce postulat-là. Et ensuite, oui, l'idée, ça a été en fait de s'intéresser à la place des femmes en politique. Donc, on a vraiment décidé de se centrer sur la politique parce que c'est le cœur du réacteur de la démocratie, finalement, aujourd'hui. Donc voilà, on s'est vraiment intéressé à cette place-là, à quel point elles étaient représentées, mal représentées, bien représentées. Bon, on s'est rendu compte que c'était pas trop ça. Et puis surtout, comment, une fois qu'elles accédaient aux instances du pouvoir, elles pouvaient être considérées en fait par leurs homologues masculins.
Le point de départ, il y a l'obtention du droit de vote en 1944 pour les femmes. Beaucoup pourraient se dire il y a eu un sacré chemin de parcouru, et c'est vrai. Pourtant, vous le constatez, encore aujourd'hui, les femmes sont minoritaires dans les institutions, minoritaires et victimes, mais comme dans toutes les sphères de la société, de violences sexistes et sexuelles.
Ouais, exactement. Dans cet épisode, on est parti de ce postulat de 1944. Effectivement, on leur donne le droit de vote. Effectivement, on leur donne le droit... d'être éligible. Mais dans les faits, en fait, dès 1944, elle reste très minoritaire. Je crois qu'on a 3 femmes à l'Assemblée nationale dès les premières élections. Et ces femmes, elles sont vraiment... on les relègue au second plan. C'est-à-dire que on nous dit, on a Édouard Herriot, un grand homme politique qui arrive à l'Assemblée nationale, et puis on a des femmes. Voilà, les femmes sont une catégorie parmi une autre. Donc vraiment, il y a ce problème de considération déjà dès 1944 qui se traduit toujours aujourd'hui. Certes, on a beaucoup avancé, il y a eu beaucoup de progrès, notamment avec la loi parité, enfin les lois parité, qui ont permis aux femmes d'avoir un meilleur accès aux institutions politiques, à toutes les échelles du pouvoir politique, que ce soit alors particulièrement en local. Mais on voit aujourd'hui que cette parité, elle a encore beaucoup de chemin à parcourir parce que, dans l'Assemblée nationale, par exemple, elle n'est pas du tout établie. On a 36% de femmes députées aujourd'hui. Et puis surtout, en fait, certes, en termes de nombre, les femmes vont peut-être pouvoir être plus nombreuses, notamment en local. Mais par contre, après, on a un manque en fait, de considération de comment arrivent-elles en fait, à exercer le pouvoir une fois qu'elles sont en place. et les spécialistes qu'on a pu interroger remarquent qu'il y a un certain nombre d'obstacles en fait à la pratique du pouvoir par les femmes politiques, notamment le sexisme, effectivement, les violences sexistes et sexuelles qui impactent la politique comme la société, hein, comme vous l'avez dit. Donc ouais, en fait, on a des femmes politiques qui vont démissionner plus vite que les hommes politiques, qui vont changer leur façon de s'exprimer, changer leur façon de s'habiller pour coller au code masculin du monde politique. Et ça pose un peu la question quand même de comment fait-on en démocratie pour représenter un peuple dont les femmes correspondent à 52% de la population quand même. Comment est-ce qu'on fait en démocratie pour représenter cette population-là alors qu'elle n'est même pas présente dans les instances du pouvoir, quoi.
Pour nourrir tous ces questionnements, là aussi de nombreuses voix se côtoient, recueillies lors d'entretiens, on entend aussi des archives. Est-ce qu'il y a une de ces rencontres qui vous a peut-être plus marqué que les autres? On croise une chercheuse, une élue, une militante aussi, je vais la qualifier comme ça, Fiona Texer, la fondatrice de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique.
Alors moi personnellement, en tout cas, je ne parlerai pas pour ma collègue Camille Curnier, mais... j'ai été particulièrement marquée par la rencontre avec Fiona Texer, justement. Moi, personnellement, je la connaissais déjà avant d'aller faire cet entretien avec elle, parce qu'elle était intervenue à Sciences Po pour faire justement des cours sur les violences sexistes et sexuelles en politique. Et déjà, à ce niveau-là, elle avait eu une façon, en fait, de nous amener le sujet très concrète, parce qu'elle en a été témoin, parce qu'elle en a été victime.
Elle a été collaboratrice.
Elle a été collaboratrice parlementaire, ouais. C'est ça. Tout à fait. Et maintenant, elle n'est plus rattachée à la politique en tant que telle. Elle intervient davantage sur la formation, justement, à ses comportements sexistes et sexuels. Mais donc, ouais, cet entretien a été particulièrement marquant parce que, bah, forcément, elle avait plein d'exemples à nous donner. Et donc, ça mettait concrètement des témoignages sur des faits qu'on voit et qu'on entend tous les jours dans les médias, quoi.
Quand vous demandez à quelqu'un, imaginez ce que c'est un élu. La personne en face de vous va spontanément avoir une image qui va représenter un homme plutôt 50-60 ans, plutôt blanc, plutôt en costume avec éventuellement une cravate, plutôt avec une grosse voix et des grosses mains qui va serrer des grosses paluches. Et ça, c'est pas caricatural de le dire. Parce qu'en fait, ça, c'est le portrait robot d'un élu aujourd'hui.
L'une des conclusions intéressantes sur le cinquième et dernier épisode du podcast Démocrache, c'est finalement que, alors il y a certes ce combat nécessaire de faire entrer plus de femmes en politique pour faire vivre la démocratie, plus de femmes féministes, si on veut vraiment que la place des femmes en démocratie soit revendiquée.
Oui, tout à fait, c'est un élément qu'on a quand même voulu intégrer au podcast, parce que on ne peut pas simplement dire qu'on veut plus de femmes et que si on met plus de femmes en démocratie, on aura une démocratie parfaite, complète, totalement représentative. C'est pas le cas.
N'est pas parce qu'on est femme qu'on est féministe.
Exactement. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est démocrate non plus. C'est pas parce qu'on est femme qu'on est plus apte à améliorer la situation politique en France face à la crise qu'elle connaît aujourd'hui. Donc ça, c'était un point important dont nous a parlé notamment Geneviève Le Tourneux, qui est élue municipale à Rennes. Cette histoire de dire que il nous faut des femmes, oui, mais pas n'importe quelle femme.
La dernière question que j'ai à vous poser, c'est de savoir chacun là, sur la façon dont vous avez travaillé pour réaliser un épisode du podcast Démocrache. Quelle est la difficulté majeure à laquelle vous vous êtes confronté dans votre travail, j'allais dire d'apprenti journaliste, puisque vous êtes encore étudiant, même si le travail mené est très sérieux. Quelle serait cette difficulté-là, Quentin ?
La plus grosse difficulté, c'est dans un temps qui est assez court, on a pris connaissance du sujet mi-septembre, fin septembre, on a rendu à la mi-décembre, fin décembre, nos projets. Le plus dur, c'est de s'improviser presque spécialiste d'un sujet en 3 mois. C'est pas notre rôle, parce que c'est heureusement, on n'est pas les seuls à parler et on va chercher des gens qui savent de quoi ils parlent et on va solliciter leur expertise et leur expérience. Mais je crois que en fait, ça implique de se mettre directement dans le bain du sujet. Et pour le coup, je vais parler de mon podcast pour les manifestations. Il faut rapidement connaître l'histoire des manifestations, les rapports de force, les enjeux qui sont en cours. Ça, je pense que c'est le plus difficile. Et en fait, c'est sur le fond là que c'est plus difficile. Sur la forme, je pense qu'on a tous pris du plaisir en fait à travailler un sujet radio aussi. Je pense qu'on est pas mal apprécié ça dans la promo.
Et pour Lynn ?
Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Quentin, mais je compléterai en disant que pour moi, ce qui a été difficile, c'est de faire des choix, en fait. Parce que, justement, on est sur des sujets qui restent très larges et qui peuvent englober beaucoup de choses. Et donc, il faut se dire, de quoi est-ce qu'on a envie de parler, qu'est-ce qu'on met de côté, même si on aimerait bien en parler, ça reste intéressant, ça reste un sujet dont il faut parler, mais là j'ai 28 minutes, j'ai 4 intervenantes à faire écouter aux auditeurs. Il faut faire des choix, donc
apprendre à renoncer.
Exactement, exactement.
Lynn Baudrier, Quentin Mallet, vous êtes tous les deux étudiants à l'Institut d'études politiques Sciences Po Rennes au sein de ce master journalisme, reportage et enquête. On a donc pu présenter ce projet d'étude sous forme de podcast Démo Crash. C'est à écouter sur les ondes de Canal B du lundi 13 au vendredi 17 janvier. Et c'est à chaque fois à midi. Pour plus d'infos, on peut aussi vous retrouver d'ici là sur un compte Instagram intitulé Démo Crash. Merci beaucoup. Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.